Bonjour et bienvenue sur les chroniques du recyclage. Je suis Arnaud Boucheron et avec Dominique Maguin, nous donnons la parole deux fois par mois pendant 30 minutes à un acteur des métiers du recyclage. Notre objectif, c'est de partager avec vous des éclairages, des conseils, des bonnes pratiques sur des sujets aussi variés que par exemple l'évolution de vos marchés, les grandes innovations ou encore de discuter des moments clés qui vont rythmer la vie de vos entreprises, que ce soit la transmission, la croissance, organique, externe, etc. Très bonne écoute et à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode des Chroniques du Recyclage. Aujourd'hui, je suis avec Dominique Maguin, qui dès le prochain épisode sera de l'autre côté du micro pour donner la réplique aux intervenants. Avec Dominique, on va profiter des 30 prochaines minutes pour éclaircir différents sujets autour des évolutions du marché des papiers et cartons recyclés, mais avec un premier point d'abord sur l'évolution de la représentativité des organisations du recyclage et des institutions. Suite aux évolutions de 2020. Dominique, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que je peux te laisser te présenter brièvement?
D'abord, bonjour Arnaud et bonjour à ceux qui nous écoutent. Dominique Maguin, j'ai 67 ans cette année. J'ai passé donc 46 ans maintenant dans la profession. Donc, vous voyez que ça fait une longue période. Et j'ai découvert un métier absolument extraordinaire, passionnant, qui consiste finalement à faire en sorte que ce qui aurait pu être un déchet ne le reste pas, ne le devienne pas véritablement, mais soit utilisé pour devenir ce que l'on appelle aujourd'hui, titre consacré, matière première issue du recyclage. Je suis entré dans une entreprise qui s'appelait le groupe Soulier, qui a été racheté dans les années 90 par la Générale des Eaux, qui s'appelle aujourd'hui Veolia. Enfin, tous ces noms de sociétés évoluent dans le temps, bien sûr. Soulier, c'était le grand acteur du marché de la fibre cellulosique récupérée, ce qu'on appelle aujourd'hui des matières premières issues du recyclage, pour le marché français, mais pas seulement, pour le marché européen aussi, puisque c'était le plus grand acteur à l'échelle de l'Europe à l'époque. J'ai fait un parcours, je dirais, depuis le bas de l'échelle jusqu'au haut de l'échelle, puisque j'ai fini président-directeur général de cette entreprise. Et par ailleurs, m'étant intéressé à ce métier, je me suis intéressé aux organisations professionnelles. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre qu'est-ce qui était structurant, qu'est-ce qui donnait une structure. Et je me suis tellement passionné pour cela que je me suis un petit peu emparé du sujet, si j'ose dire, et j'ai présidé un certain nombre de syndicats en France, puis la fédération française qui s'appelle
Fédéric.
Fédérec, que j'ai présidé pendant 10 ans. Ensuite, j'ai travaillé au niveau de l'Europe, hein, et puis après, j'ai pris la présidence de cette confédération, je devrais dire mondiale, qui regroupe une quarantaine de fédérations nationales dans le monde. C'est un petit peu moi ce que j'appelle les Nations Unies du recyclage. Voilà.
Très clair.
Et puis, finissant mon mandat là, mes pairs, mes confrères m'ont demandé de fonder, de créer, d'organiser. La Confédération des industries européennes du recyclage, qui s'appelle EURIC, et que j'ai fondée à l'époque.
Ça
Puis
nous
à côté de ça, j'ai aussi une entreprise qui s'appelle la Compagnie de matières premières, qui est une entreprise familiale, à 100% familiale, et qui est l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui avec mes fils aînés.
Parfait,
Voici.
très clair. Et donc, ben, on a beaucoup parlé des organisations professionnelles et ça nous fait une bonne transition vers notre premier sujet pour aujourd'hui. On a vu là vers fin 2020 que l'État en fait, a revu la liste des organisations représentatives du secteur du recyclage. On a assisté à cette occasion-là, je dirais, à une sorte d'entrée en force de tout ce qui est organisations qui vont représenter les consommateurs de matières, donc notamment les papeteries, les aciéries. Et d'autres. Et ça vient un peu réouvrir une querelle qui avait plutôt animé la décennie années 2000, début 2010, sur le fait qui est le recycleur. Et toi, tu as été l'un des premiers dans les années 90-2000 à apporter ces questions. Est-ce que tu pourrais brièvement nous expliquer pourquoi c'est un sujet qui est important, pourquoi c'est important de savoir qui est le recycleur, et ensuite, toi, ta vision de ce sujet, qui est le recycleur, qui est quoi sur cette chaîne, où évidemment, ça je pense que ce n'est pas un débat, bah, il y aurait effectivement une chaîne de production complète où tout le monde est un acteur important du générateur du déchet jusqu'à la personne qui va refaire un produit avec la matière première qui aura été préparée le long de cette chaîne de production.
Merci pour cette question qui est effectivement importante et qui ne manque pas de me passionner. Quand on essaye de comprendre où est l'importance à comprendre qui est le recycleur, il faut essayer de repartir un petit peu à l'étymologie des mots. Recycler, c'est réintroduire dans un cycle. Alors, la réintroduction dans un cycle, c'est d'abord et avant tout la réintroduction dans un cycle de vie et dans un cycle économique. Et sur le plan d'ailleurs économique, le législateur ne s'y est pas trompé, puisque un déchet n'est pas assujetti à la taxe à la valeur ajoutée, ce qui veut dire qu'il n'a pas de valeur, il n'a plus de valeur, valeur égale à zéro, et que sa valeur va être redonnée par les opérations qui consistent ensuite à l'isoler, à le trier, à le valoriser et à le rendre matière première selon des standards à nouveau de production de cette matière, disponible pour une utilisation de fabrication en tant que matière première. Et là, il est assujetti à la TVA. Donc, il a retrouvé sa valeur. Donc, le recyclage, il se passe bien à cet endroit-là.
Derrière ma question sur pourquoi c'est un sujet important, moi, j'ai en tête les implications, notamment financières, mais aussi de lourdeur réglementaire, qui peuvent être liées au fait d'être considéré ou non comme le recycleur ou comme une matière recyclée. Je pense au statut de déchet qui peut gréver les échanges internationaux ou transnationaux, mais je pense aussi, par exemple, on est en train de voir émerger des questions sur des bonus-malus fiscaux pour la réintégration des matières, l'exonération de TVA. Qu'est-ce qui peut se passer si, par exemple, demain, on dit le recyclage, c'est plutôt au niveau du consommateur et pas en amont, ou vice-versa?
Je dirais que, en définitive, ce débat sur l'importance de la terminologie recycleur, d'ailleurs, je remarque que nous sommes appelés des recycleurs depuis de très, 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 très nombreuses années, et que tout à coup, la profession de ceux qui achètent ces matières veut s'emparer du titre et s'auto-proclamer recycleur. Mais je dirais que c'est étonnamment lié au phénomène que tu viens de nous indiquer, Arnaud. En fait, je dirais depuis les accords de Kyoto et depuis en fait ce qu'on a appelé peut-être un petit peu rapidement le droit à polluer, finalement cette taxe sur les émissions de CO2, tout le monde a réfléchi en se disant si d'un côté on paye une taxe, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'alléger la taxe? Et dans cette affaire, je dirais que s'il y a une taxe parce qu'on émet du CO2, peut-être qu'on peut avoir une taxe parce qu'on évite d'émettre du CO2, puisque bien évidemment, quand on met en œuvre une tonne de matière première issue du recyclage par rapport à une tonne de matière première fossile, vierge, de première extraction, etc., on économise des tonnes de CO2. Donc, quand on fait l'analyse de tout cela, en fait, on sort un bilan carbone qui est très bon, et on se dit, ce bilan carbone qui est très bon peut se négocier, peut se valoriser, combien ça coûte, on peut lui mettre une valeur faciale, et ensuite se dire, c'est peut-être que ces nouveaux certificats-là pourraient venir compenser, en quelque sorte, le droit à pollution, cette taxe qui a été mise sur les émissions de CO2. Et donc, il y a un enjeu financier qui est très important. Tout le monde l'a compris, tout le monde le regarde et tout le monde essaye de se positionner.
Oui.
Je veux un morceau de ce nouveau marché. Voilà.
Et a priori, on aura pour tout le monde. Cette mise au point... Cette mise au point est en fait sur la partie plutôt réglementaire et institution. On va rentrer dans le vif du sujet des marchés des cartons recyclés en premier. Entre février 2020 et mars 2021, on est passé à peu près de 30 euros à 170 euros rendus usine en Europe sur le marché local à la tonne. A priori, quand les prix montent autant, c'est qu'il y a un manque de matière quelque part et qu'il y a des gens qui veulent payer pour être sûr que leur machine tourne. Et à côté de ça, on voit dans les premières données du CEPI qu'on a une baisse de 10% à peu près des exports européens. Et donc, la question qu'on se pose, là, c'est où est passée la matière? Et puis, est-ce qu'on est sur un niveau qui va être soutenable ou dès qu'on va réavoir nos vaccins et un peu un retour à la normale, on peut s'attendre à un retour à des prix pré-crise du Covid? Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui as déjà vu pas mal de cycles de commodités?
C'est la psychologie des marchés. Je dirais qu'il faut prendre en compte quand on essaie de comprendre ce momentum, j'allais dire, sur la structuration des prix. C'est la psychologie qui fait les marchés. C'est pas autre chose. Je dirais que d'abord, dans un marché de matières premières, un écart infime d'1%, 2%, 3%, de plus ou de moins, propulse les marchés vers les cimes ou vers les abîmes. C'est assez immédiat. C'est-à-dire que, effectivement, si moi, producteur, j'ai plus de matière et que tous mes clients en ont besoin, en général, on pense d'ailleurs qu'on est dans un marché spéculatif. On serait dans un marché spéculatif si on stockait la matière et qu'on attend de la bonne opportunité pour la vendre. Ça, c'est de la spéculation.
Oui.
Alors, on peut difficilement stocker dans nos métiers.
Surtout
parce
l'hiver,
que,
je veux dire, en ce moment, avec la neige, la pluie, le froid.
C'est ça. D'abord, il y a des événements climatiques qui viennent perturber nos capacités. Et puis, en plus, on a tous les aspects légaux. Un site chez nous qui produit une matière première pour l'industrie, elle est soumise à des règles très précises, à des assureurs qui aussi nous garantissent un certain volume.
Oui.
Et ça veut dire qu'il y a des règles économiques qui s'appliquent qui font que ben, on ne peut pas s'amuser à stocker. Voilà. Et par conséquent, on ne peut pas parler de marché spéculatif. Donc, quand le prix monte et baisse, c'est le pur témoignage de la demande
et
de la quantité d'offres et de la quantité de demande.
Alors, j'aimerais creuser un point ensemble sur cette question de où est passée la matière. Si on regarde un petit peu de loin, comme moi qui ne suis pas acteur de marché, je me dis, bon, côté consommation, notamment si on pense au carton, hein, entre le e-commerce qui s'est fortement développé, on a vu l'agroalimentaire tourner à pleine vitesse, et donc bah, beaucoup de cartons arrivés sur le marché, plus beaucoup moins d'exports vers l'Asie parce que le transport le permet pas. Est-ce que les tonnes, elles ont disparu dans la poubelle jaune et on n'arrive pas à bien les trier et donc elles ne sont pas propres à la consommation de nos usines? Est-ce qu'il y a une baisse massive de la collecte que toi, tu as déjà pu constater en parlant avec des confrères? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des idées un petit peu de ce qui se passe quand même pour comprendre où sont
oui,
allées
oui,
ces
oui,
tonnes?
oui, oui. Alors, d'abord, un marché, si on essayait de le symboliser, il faut imaginer un tube. Et ce tube, il est plus ou moins long. Alors, tout d'abord, donc je dis un tube parce que dans la crise qui nous a préoccupés, quand il y a l'émergence du e-commerce, ce n'est pas le même marché d'approvisionner Amazon et d'approvisionner des unités qui vont produire, qui vont emballer leurs produits, qui vont le mettre chez un grossiste, qui vont le transporter vers un distributeur, une grande surface par exemple, et où je vais aller faire mes courses et avoir le produit à ma disposition. Donc on voit que déjà à ce niveau-là, le tube est différent. Donc la longueur du tube est éventuellement est différente et que j'ai plus de temps ou moins de temps avant d'avoir la disponibilité du produit à l'issue de sa consommation.
Okay.
Ensuite, il y a les circuits de collecte. Quand je suis dans le e-commerce, j'ai changé le tube. C'est-à-dire que là, je suis directement au contact du consommateur et je suis au contact non plus de ces grands centres industriels qui sont des centres de concentration de ces emballages en fin de vie, mais je suis dispersé auprès des ménages.
Donc,
et donc, on va récupérer le produit chez d'autres personnes.
Et dans une qualité différente, j'imagine, forcément. La poubelle jaune, c'est pas les balles Carrefour.
C'est ça, dans une qualité différente, donc il va falloir être plus attentif aussi, peut-être.
Donc finalement, ce que dit un peu ta réponse, corrige-moi si je me trompe, c'est qu'on a quand même cette pandémie qui a accéléré un changement structurel sur la consommation d'emballage pour le carton vers plus de e-commerce et ça devrait continuer après. Et donc finalement, là, cette tension offre-demande, elle ne va pas se réajuster si facilement après la vaccination et la reprise de la consommation normale, puisqu'on a finalement des pratiques qui ont véritablement changé chez le consommateur, quoi. Il y aura une normalisation, mais pas complète, quoi.
Ce que je peux dire, c'est que sur ma période d'activité, donc qui commence à être longue, je suis toujours en activité, c'est que chaque fois qu'on voit un changement comme ça, en fait, il induit un nouveau comportement, mais il n'annule pas pour autant les comportements précédents. C'est-à-dire qu'il y a une répartition ensuite qui va être différente, selon moi, avec des choses qui vont durer, qui vont rester dans la version actuelle, et puis des retours qui se feront un petit peu plus vraisemblablement vers ce qu'on avait l'habitude de voir. Il faudra apprendre à jouer avec un peu plus de cartes dans la main qu'on en avait jusque-là. C'est des phases, pour moi, ça s'appelle une phase d'adaptation d'un
Phase de
métier.
tension, ouais,
Ça, c'est
complètement.
pas grave.
Et si on revient à, je pense que tu voulais nous parler en fait des changements que ça avait impliqué dans les années 90 par rapport à
Mais
ce qui se
oui,
passe maintenant.
ce qui est arrivé à partir du moment où on est rentré dans une gestion qu'on va appeler politique, de la gestion politique du déchet, qui consiste à dire ben, le recyclage est un moyen intelligent de limiter le déchet classique, celui qui va être soit enfoui, alors on dirait stocké aujourd'hui, ou incinéré, ou on dirait mis en unité de valorisation énergétique aujourd'hui, pour parler clairement. Eh bien, dès lors qu'on va décider de substituer des volumes qui allaient vers ces exutoires pour les rendre accessibles au recyclage et à l'industrie consommatrice, on va amener des volumes qui ne sont pas attendus par le marché. Cette masse de volume a complètement effondré les prix. Ce que nous avons vu en mars 2020, on l'a vu de manière encore pire au début des années 90, avec des prix qui étaient négatifs en valeur franco-usine de consommation, parce qu'il y avait tellement de volume sur le marché qui n'était pas attendu par le marché. Je reviens sur l'idée de base. 1%, 2% d'excès dans un sens ou dans un autre provoque la montée ou l'effondrement des prix. Et quand on arrive à mobiliser des volumes qui peuvent représenter 10% des volumes sur le marché, c'est un effondrement total. Et enfin, ensuite, il faut bien sûr que
Le marché
le
s'ajuste.
marché se réadapte et se réorganise.
Ça fait une transition parfaite, ces tonnes en excès, puisque c'est en grande partie pour ces raisons-là que l'échange international de matières premières recyclées s'est développé, notamment vers l'Asie. Et là, depuis un an, on a assisté, en tout cas, entre l'évolution du marché européen et le marché asiatique, à une décorrélation des prix. Je crois qu'on a fait x1,5 sur l'Asie à peu près sur un an, quand l'Europe a fait x3, x4, que l'euro s'est apprécié par rapport au dollar, que le fret a explosé dans ces derniers mois. Et donc, peut-être première question pour toi qui es acteur de marché via ton entreprise, est-ce qu'il y a des tonnes qui bougent encore entre l'Europe et l'Asie dans ces conditions-là? Et sinon, comment se fournit l'Asie puisqu'elle continue à être
Oui.
l'usine du monde? Et donc, où trouve-t-il les matières pour emballer et produire?
Très, 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 très intéressante question. Merci parce que c'est vraiment fondamental. D'abord, pourquoi est-ce qu'on exporte vers l'Asie? Il y a 20-22 millions de tonnes qui posent problème sur la planète parce que là, on est dans ce qu'on a au-delà des capacités de consommation locale et qu'il faut donc absolument faire changer de continent.
Très clair. Donc on comprend bien, je pense, le besoin
Et donc,
d'exportation et d'échange.
on est obligé d'exporter.
Ça, c'est
On a des
certain.
problèmes d'exportation qui sont liés à une désorganisation des marchés aujourd'hui, ce que tu évoquais sur l'évolution notamment du prix du transport avec un doublement, triplement des prix de transport, c'est lié directement à la crise que nous vivons.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre société, vous arrivez encore à envoyer des matières de l'Europe vers l'Asie? Ou est-ce qu'aujourd'hui, avec le fret, décalage de prix, ça n'a plus d'intérêt, ou est-ce qu'il y a quand même des tonnes en excès en Europe qui ont besoin de partir sur le marché asiatique?
Alors, il y a des tonnes en excès en Europe, oui, de manière structurelle, je l'ai évoqué tout à l'heure. On continue à collecter, à produire plus que la consommation locale n'est capable d'absorber. Donc, il y a des tonnes disponibles, et il y a des tonnes qui peuvent partir. Et oui, est-ce qu'on est capable de le faire? Oui, parce que, alors, tous les effets qu'on cite sur le bouleversement dans le fret maritime, etc., il faut comprendre que les compagnies maritimes, elles ont bouleversé leurs routes maritimes. On raréfie le nombre de bateaux qui tournent. Alors, pour le raréfier, ben, on les met en entretien. On décide d'avancer sur la périodicité de l'entretien parce qu'on se dit, ben, quand le marché sera parti, ce n'est pas là que je vais arrêter mon bateau pour le mettre en cale sèche pour faire des travaux. Donc, je vais faire les travaux en avance. On a aussi toute une problématique, c'est que nos matières, elles voyagent aujourd'hui dans des conteneurs et ces boîtes, elles sont utilisées, on les remplit, on les livre dans un pays, elles sont vides. Et quand le marché mondial est en panne, ben les boîtes, elles sont plus au bon endroit.
Très
Alors,
bien.
ça se met à un moment avant de se rééquilibrer. Oui, le travail fonctionne. Et est-ce qu'on continue à vendre en Asie? Telle était ta question. Oui, on continue à vendre en Asie.
Donc, ça nous fait notre transition en parlant de Chine vers le sujet de la pâte recyclée. Donc, la Chine n'a pas arrêté de consommer de la fibre cellulosique. Loin s'en
Mais non,
faut, au
c'est
contraire.
Toujours l'usine du monde. Et
c'est
on
toujours
le
l'usine du
dit
monde.
Encore aujourd'hui. Hein. Ils ont gagné énormément d'argent en continuant à fabriquer, notamment des masques et autres aides à la respiration qui sont achetées par les autres pays aujourd'hui. Mais ils ont continué à produire, donc à avoir des besoins d'emballage, donc
À
à nous
consommer
exporter leurs
leurs
produits.
produits. Et donc, on a quelques chiffres. Rizir, Rabobank nous disent qu'on est passé près de 0 tonne de cette commodité pâte recyclée en 2017 à 2 millions et demi. On annonce
Alors, on
dans la
peut,
presse
si tu
professionnelle
me dois.
7 millions de tonnes de capacité. Qu'est-ce qui se passe
Oui.
là-dessus? Qui sont les acteurs de ce marché? Vers quoi on va? Quelle est ton analyse en fait,
Alors,
de cette tendance?
petit éclairage. Pour fabriquer du papier, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait avoir de la pâte à papier, à l'origine, hein. Et y a eu pendant très longtemps un rêve qui s'était fait, alors là je reviens dans les années 90 d'ailleurs, qui était la fabrication de la pâte désencrée marchande. Et il y a eu une éclosion de projets dans le monde à l'époque, mais il se trouve que c'était, je crois, une mauvaise idée dans le fond industriel. D'ailleurs, la plupart des projets de l'époque se sont effondrés.
Est-ce que tu
C'est
nous
ce
dis
qu'on
en
peut se dire.
filigrane que tu t'attends à la même chose pour cette pâte recyclée version
Alors,
2017-2021?
non, je dis simplement que c'est totalement différent. D'abord, on n'a pas spécialisé des usines. Ce qui est sur le plan du coût industriel complètement différent. Et donc cette pâte-là, cette bobine-là, elle est venue en fait comme capacité de remplissage de ma chaîne de fabrication, si j'ose dire. C'est un marché qui s'est intelligemment trouvé et mis en place. Félicitations aux acteurs économiques qui ont eu l'idée de le mettre en route à ce moment-là. Et c'est venu complémenter leur fabrication pour que le taux d'utilisation machine ne les mette pas complètement en difficulté
Par terre.
financière.
Dans ce que tu dis en filigrane, je comprends plusieurs
Et
choses.
si attends, excuse-moi.
Vas-y, je t'en prie.
L'intérêt là-dedans, c'est quoi? Quand j'achète ce produit qui est un produit industriel, eh bien, je sors complètement de la catégorie déchets. Et donc, par conséquent, j'importe pas un déchet, j'importe une matière première normée d'une certaine façon et qui va me permettre de travailler simplement et légalement.
Très clair, très très clair. Et oui, on comprend bien l'intérêt de la Chine et pourquoi ça devrait continuer à se développer cette année, l'année prochaine. Dans ce que tu
Pas
as dit en
que, hein, pas
fi.
que la Chine, hein,
Oui,
l'Inde importe aussi, hein.
n'importe. D'accord. Et donc, justement, sur les acteurs de ce marché, on sait qu'il y a eu très tôt, enfin, les acteurs chinois avaient préparé donc, des unités en Asie du Sud-Est pour ensuite alimenter leurs usines en Chine à travers des tonnes venant des États-Unis et d'Europe. Tu as l'air de dire qu'il y a des papetiers qui ont fait avec leurs outils de production aussi de la production de ces produits-là et qui l'ont directement exporté. Et nous, ce qu'on a pu voir un petit peu sur le marché, c'est que pour l'instant, il y a aussi des unités en cours de création par Nine Dragons et d'autres directement aux États-Unis, a priori pour l'instant pas en Europe. Donc, qui agit sur ce marché aujourd'hui et comment tu vois ces différents acteurs s'organiser?
Vaste débat, j'ai envie de dire. Vaste débat. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, finalement, dans cette phase d'adaptation de marché de nouveau, cette bobine de papier pas très bien préparée, mais séchée, peut permettre de voyager et d'approvisionner légalement. En respect des règles et des normes, les pays consommateurs qui vont ensuite repulper, hein, on va redécouper la bobine, on va la remettre dans le pulpeur, on va refaire de la pâte liquide, on va refaire une feuille de papier directement dans le pays. Oui, ça va faire partie du paysage indéniablement. Parce que justement, c'est un des éléments, au moment où on serait bien inspiré au niveau politique de regarder la terminologie. Et la classification des matières pour que les marchés soient fluidifiés, Eux, ils ont trouvé une réponse, je dirais,
On contourne.
qui est industrielle et légale. Donc voilà, ça va continuer à se développer, oui. Et
Et est-ce...
pas que dans cette zone du monde. Je pense que ça intéressera également des pays qui sont situés en Amérique latine. Ça peut intéresser demain des pays en Afrique, etc., sur le continent africain, parce que ça va permettre d'aller plus vite dans la consommation et dans la production.
Bon, en note de conclusion, ce qu'on peut retenir là, de ce qu'on s'est dit, c'est qu'on est dans une phase de transformation, de réorganisation, et qui, toi, te paraît normale et comme on doit en connaître dans tout cycle et vie de matière. A priori, on a quand même quelques changements structurels qui justifient cette organisation sur où sont les tonnes, notamment pour le carton. Sur l'export, pas vraiment d'inquiétude. Il y aura toujours un véritable besoin. Pour alimenter l'usine du monde qui est l'Asie. Et ensuite, le marché s'adapte à la fois d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue industriel pour continuer à faire circuler les tonnes. Et donc, peut-être en termes de niveau de prix, bon, là, on ne retourne pas à la normale très très vite, mais on va rester sur des plateaux plus hauts que 2019, 2020, début 2020 qui étaient très très bas. Est-ce que c'est un résumé relativement fidèle de ce qu'on a pu se dire dans cet échange?
Alors on va rester sur un plateau plus élevé ou pas. Ça va dépendre quand même beaucoup de la suite de l'aventure malencontreuse de la pandémie. Donc ça, je ne suis pas Madame Irma ou Madame Soleil, donc je ne sais pas le dire. Mais oui, je suis d'accord avec le résumé que tu viens de faire. Nous sommes dans des périodes d'adaptation, nous sommes des métiers qui ont l'habitude et qui doivent continuer à pouvoir s'adapter en permanence, plus que d'autres, hein, parce qu'on suit la consommation, donc nécessairement on suit quelque chose qui nous échappe un peu, et on s'adapte en permanence. Et puis on est dans la grande construction de la protection environnementale du monde. Et donc, bien évidemment, là aussi, il y a des tas de décisions qui ne sont pas prises nécessairement uniquement avec nos argumentations, mais les argumentations des autres secteurs de l'industrie et des autres centres d'intérêt de la planète et du monde et des personnes, ce qui est souhaitable. Et donc, on doit s'adapter. Mais nous sommes des populations dans nos métiers de gens qui savent s'adapter. Voilà.
Eh bien, ouais,
La résilience, c'est une des très fortes capacités de cette profession, des personnes de cette profession. Petits métiers issus de la rue qui sont devenus des grandes industries et qui ont conservé cette capacité à regarder dans le rétroviseur sans oublier ce qu'on a traversé pour être capable de traverser ce qui est devant nous au travers du pare-brise, quoi.
ben, on va se séparer sur ces beaux mots. Merci beaucoup pour tous les éclairages et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de l'autre côté du
Très
micro pour toi.
volontiers. Très
Merci beaucoup
volontiers,
Dominique.
merci et bonne
À
journée à tous.
bientôt.